Je reviens sur une diapositive du cours précédent, puisque plusieurs d'entre vous m'ont signalé une petite bévue, et donc j'ai rétabli dans la phrase en rouge, sans les immigrés, le taux de fécondité de la France serait à 1,9 enfants par femme au lieu de 2, et non pas l'inverse, ce que j'avais écrit sur la diapositive. Donc je tiens à corriger ça, donc c'est là ce que nous, les démographes, nous disions en 2007, et qui évidemment a été transposé, refait récemment, ce serait 1,8 au lieu de 1,9 ou 1,7 au lieu de 1,8. Évidemment, tout ceci change un peu d'une année à l'autre. Deuxième chose, je complète ce que j'avais cité un peu de tête, un extrait de l'évangile de Matthieu, un texte très connu, qui est un des grands textes cités pour étayer la position de l'Église en matière d'accueil de l'immigration, hein, puisque il y a plusieurs variantes dans l'Évangile, soit le Christ parle directement, soit c'est une parabole, et le roi fait le tri entre les brebis et les boucs, c'est comme ça que le texte est introduit, il met les unes à droite et les autres à gauche, et à ceux de droite, il dit « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Et voilà les fameuses phrases « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier, vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te désaltérer, étranger, de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier, et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc c'est le Christ comme une sorte d'opérateur universel entre tous les humains. Mais voici la suite. Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle et les justes à une vie éternelle. » Vous voyez la structure très binaire, complètement dichotomique de l'argument. Et effectivement, le problème de ce texte est que la charité, qui est en principe totalement désintéressée, la charité, la non-charité sera payée de retour. Enfin, la charité est payée de retour, elle vous donne la vie éternelle, et si vous ne la pratiquez pas, elle vous voue au diable. Et voilà un peu une des grandes difficultés qu'on a dans ces textes, puisque la charité, bon, selon les textes des évangiles, en y incluant les lettres de saint Paul, est tantôt payée de retour, tantôt non payée de retour, et c'est évidemment une des grandes difficultés de l'argument. Et j'ai observé assez souvent que l'Église avait tendance à mentionner la première partie du texte, mais pas la seconde, qui aujourd'hui, évidemment, nous paraît très contraire à des principes un peu élémentaires. L'hospitalité inconditionnelle, par exemple, ne peut pas être conditionnée à la promesse de la vie éternelle ou à la promesse d'éviter le châtiment éternel. Enfin, c'est donc une des difficultés qu'on a. Je signale d'ailleurs que les textes sur l'hospitalité inconditionnelle sont souvent lus un peu de travers. On évoque souvent Kant dans la paix perpétuelle qui a invoqué cette notion d'hospitalité inconditionnelle. En fait, Kant ne songeait pas du tout à l'accueil de l'étranger chez soi. Ce que l'argument qui est évoqué par Emmanuel Kant, donc dans ce traité qui date de 1795, c'est est-ce qu'on peut voyager partout dans le monde entier et s'inviter chez les autres comme si on était chez soi ? En fait, c'est la colonisation qui est essentiellement visée par Kant, et les exemples qu'il donne, c'est le fait d'aller occuper des territoires en Afrique, dans les Indes orientales, dans les Indes occidentales, et Kant ajoute que tout cela a provoqué des massacres en nombre, et il dit, mais écoutez, on peut, il y a un droit de la libre circulation sur toutes les mers. Et là, évidemment, il connaît Grotius, et il sait que la mer est un vaste marché, qu'il y a donc une liberté totale de circulation sur les mers, mais ce n'est pas parce qu'il y a cette liberté totale que l'on peut s'inviter, entre guillemets, librement chez autrui. Il faut avoir l'accord du peuple en question. Et ce qui est très étrange de voir comment ces textes ont été réinterprétés, notamment par Derrida, par exemple, comme étant une sorte de fondement philosophique à l'hospitalité inconditionnelle. Kant était d'accord pour que les hommes quittent librement leur pays et puissent aller sur d'autres terres, rendre visite à d'autres nations, mais il fallait avoir l'accord des dites nations. Et en fait, ce que visait Kant, c'était la colonisation. Alors c'est toujours important quand on voit des textes classiques, là j'ai pris l'Évangile, j'ai pris Kant, j'ai pris etc., mais enfin de se reporter quand même à l'original, hein, chose qu'on fait assez rarement. On se contente souvent de textes de seconde main, de citations, et je crois que c'est utile de temps en temps de revenir aux textes originaux, d'autant que ces textes sont maintenant aisément accessibles en ligne. Voilà. Alors, je voulais aussi ajouter au cours de la dernière fois que j'avais présenté donc une analyse de la notion d'amalgame et surtout de la facilité avec laquelle la dénonciation de l'amalgame était elle-même dénoncée. Comment le procédé de la dénonciation de l'amalgame était tourné en dérision par la blogosphère de la droite ultra, avec une très grande facilité. Et au fond, l'argument consistait à dire votre argument n'est qu'un argument rhétorique. C'est la rhétorique consistant à dénoncer la rhétorique. Enfin, et là, on a du mal à sortir d'un tel argument. Il se trouve que, sans le savoir, mais je l'ai appris depuis, il y a deux références importantes sur la question, sur l'accusation d'amalgame. Amalgame, c'est une accusation, c'est pas une analyse, enfin. Il y a d'abord Roselyne Coren, que nous inviterons en janvier. J'espère qu'on n'aura pas de variants pi, rho, sigma, tau, oméga qui nous empêcheront de la recevoir en personne, puisqu'elle vit en Israël. Et Roselyne Coren, qui produit énormément, dès les années 95, avait commencé à travailler sur la question de l'amalgame. Là, je cite un article un peu plus récent qu'elle a écrit sur le sujet, c'est quelque chose qu'elle a à cœur, et elle dit qu'au fond, l'amalgame, c'est transformer, c'est pervertir l'analogie, c'est transformer le principe de l'analogie en une identification. Au lieu de dire que A est à B, ce que C est à D, eh bien, on va simplement dire A et C. C'est RSSS. Bon, c'est un amalgame qui veut dire les CRS nous combattent ou veulent nous réduire au silence, etc., de la même façon que les nazis ont voulu le faire pour les résistants. Enfin, vous voyez, et puis, donc, du coup, CRSSS, c'est A et C, et non plus A est à B, ce que C est à D. Je reviendrai sur cet exemple CRSSS dont l'histoire est très intéressante. Donc, elle avait déjà fait en 1995 un essai sur les perversions de l'analogie, et une question qui la préoccupe beaucoup, c'est la question des deux poids, deux mesures vis-à-vis d'Israël et Palestiniens. Bon, cette question est extraordinairement délicate. Je peux vous dire que les spécialistes israéliennes ou israéliens de l'argumentation sont eux-mêmes divisés sur le sujet, hein, de savoir comment peut-on, jusqu'où peut-on critiquer, par exemple, la politique d'Israël en évitant le point Godwin, en évitant de faire des persécutés d'autrefois, de nouveaux persécuteurs qui seraient équivalents aux persécuteurs qu'ils avaient persécutés autrefois. Enfin bon, c'est toute cette logique-là. Et Roselyne Coren, avec un certain courage, un certain allant, entre dans ces polémiques-là, les analyse de façon très précise, puis ensuite vous pouvez penser ce que vous voulez. Alors Marianne Doury est sur une que nous avons reçue au séminaire lundi. Tout ceci est en ligne, hein, vous pouvez la voir si vous n'y étiez pas. Marianne Doury, vraiment, avec les années, s'impose comme étant une des principales, la principale représentante de l'analyse de l'argumentation dans les discours en France actuellement. Je pense qu'elle est la meilleure de sa génération. C'est vraiment ma conviction. Elle est l'auteur d'un grand manuel, cher mon Colin, qui s'appelle « Argumentation », qui est extrêmement lisible, et elle nous a fait vraiment un très très bel exposé lundi sur toutes ces questions-là. Elle a évoqué la question de l'amalgame et la façon dont l'argument de l'amalgame était tourné en dérision par ceux qui le pratiquaient. Elle pense que la notion d'amalgame n'est pas une notion, un instrument critique de professionnel, c'est une accusation, mais elle souligne, et ça c'est très intéressant, que en fait, parce qu'elle enregistre toutes sortes de conversations, de discours, de polémiques, etc., elle montre qu'il y a chez les locuteurs ordinaires une compétence qui est désormais très, très développée. Cette compétence, elle apparaît très bien dans les blogs, dans les forums de discussion, une capacité à dénoncer les arguments d'autrui, à qualifier les arguments d'autrui et à dire « mais là, c'est un argument d'autorité, vous citez le professeur machin et c'est uniquement parce qu'il est professeur que vous le cautionnez, etc. Mais vous ne parlez pas de l'argument lui-même, vous parlez de la personne qui propose l'argument. » C'est donc l'idée que à la place du logos, on met en avant l'éthos, hein, l'image de la personne, ou au contraire, on essaie de disqualifier la personne parce qu'on n'arrive pas à réfuter son argument. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Et donc, on voit que les locuteurs ordinaires sont tout à fait capables, y compris dans des conversations très improvisées maintenant, de dire « mais ce que vous faites là, l'argumentation que vous m'opposez là, c'est un argument d'autorité, c'est de l'amalgame, c'est une mauvaise analogie, ou bien vous changez de sujet hein, ». Ça, c'est quelque chose qui est répertorié également par c'est ce qu'on appelle le « red herring », le « hareng rouge », l'argument de l'hareng rouge. « Red herring », c'est très, très utilisé en anglais, hein, c'est une expression extrêmement utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette référence bizarre au hareng rouge? C'est parce que, semble-t-il, les fugitifs d'autrefois jetaient des harengs rouges aux chiens qui les poursuivaient pour les dépister. Voilà, c'est l'origine de cette étrange expression. Mais le red herring, qui signifie « mais vous changez complètement de sujet, ça n'a rien à voir, j'étais en train de parler de ceci et vous me parlez de cela », ce qui arrive très souvent dans les discussions politiques, argument du red herring, du hareng rouge, c'était très utilisé aujourd'hui encore en Angleterre comme expression. Donc, capacité des locuteurs ordinaires à dénoncer, à évaluer la qualité des arguments d'autrui. Et du coup, ce que dit Marianne Doué, c'est que cette capacité des locuteurs ordinaires n'est pas très, très éloignée de la capacité d'un courant d'études de l'argumentation qui est très développé dans les pays anglo-saxons, qui consiste à dire à faire du « critical thinking », à essayer d'évaluer l'ensemble des arguments et à dénoncer les erreurs de raisonnement, les fallacies, comme on dit, etc. Et du coup, Marianne Doury en conclut qu'il vaut mieux, quand on fait de l'analyse du discours, renoncer à évaluer les arguments, mais simplement les identifier, essayer de comprendre comment ils sont utilisés, comment ils se transmettent, etc. etc. Donc un discours descriptif, avec le problème que cette abstention, cette absence de jugement de valeur ne peut pas aller jusqu'au bout. Enfin, y a quand même des arguments qu'il faut pouvoir dénoncer, et c'est ce que dit Roselyne Coren, qui, elle, pense qu'il y a une sorte de neutralité quand même engagée dans cette question-là. Alors, nous parlerons dans la dernière séance de l'année, nous parlerons plus à fond de ce problème. À quoi sert cette identification des arguments? Comment on peut l'utiliser dans le cas de l'immigration? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je vous ai embrouillé l'esprit ou est-ce que je vous ai armé davantage? Je vais réserver ça à la conclusion qui sera plus écrite que l'improvisation orale que je suis en train de faire en ce moment. Alors, oui, un exemple fameux d'identification, c'est CRS-SS. Vous savez que SS est souvent écrit avec, dans un style de croix gammée que les nazis avaient utilisé. Alors, évidemment, le slogan porte, parce que c'est très bref, il y a la fameuse allitération. Et un jour, François Mitterrand, interrogé sur CRS-SS, a dit « La rime est riche, mais le contenu est pauvre ». Alors, le problème, c'est en fait, non, la rime n'est pas riche. Hein. S, ce n'est pas une rime riche, c'est une rime pauvre. Ce serait une, voilà, il faudrait quand même deux ou peut-être trois syllabes pour que la rime soit vraiment riche. Et le contenu est plus riche qu'on ne croit. Alors ça, c'est très intéressant de voir comment un slogan avait un contenu riche à l'origine, s'est ensuite cristallisé, démotivé, et devient effectivement s'appauvrit hein, avec le temps. Mais il n'est pas né en mai 68, contrairement à ce qu'on croit, mais 68 a été un grand moment de résurgence du slogan CRSSS. En réalité, il date de 1948, octobre 1948, c'est la grande grève des mineurs. Il y avait à ce moment-là un décalage entre la paye des mineurs et l'inflation, qui était très importante à l'époque, considérable. Donc, révolte des mineurs. Il y a à peu près 30 000 mineurs qui se mettent en grève. Enfin, c'était un mouvement de très grande ampleur. Et je rappelle que les mineurs avaient été incités à reprendre la production, puisque pendant la guerre, les mines étaient évidemment sous surveillance allemande, sous surveillance de l'armée allemande. Et les mineurs avaient tout fait pour essayer de couler un peu la production, tout en étant évidemment surveillés avec l'injonction de produire. Et après la guerre, il a fallu effectivement les remettre à une pleine production. Et ça, c'est un fameux discours. Les partis communistes, notamment, ont incité les mineurs à reprendre le travail parce qu'à cette époque-là, la mine, le charbon, c'était l'énergie fondamentale. Hein. Quand j'étais à l'école primaire, on apprenait avec fierté les millions de tonnes de charbon que la France produisait. On comparait ça aux pays voisins. Ça faisait partie des choses qu'on apprenait à l'école et qu'on était... Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Peut-être qu'il y a l'équivalent pour l'énergie nucléaire, je ne sais pas du tout. Mais voilà, on était fiers d'avoir une forte production de charbon. Et il y avait un productivisme, évidemment, affiché. Bon, les mineurs ne sont pas payés de retour. Et en 1948, ils se révoltent. On est sous la présidence d'Henri Queuil et le ministre de l'Intérieur est Jules Mocq. Il autorise les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, qui avaient été créées en 1944, qui sont de création toute récente, il les autorise à tirer à balles réelles. Il va y avoir 6 morts, il va y avoir de nombreux blessés, il y aura 3000 licenciements. Donc c'est dans cet affrontement-là qu'est né le slogan CRS-SS. Et l'analogie qui avait été faite avec la répression des mineurs par les CRS n'était pas dénuée de fondement parce qu'effectivement, les SS aussi avaient participé à certaines répressions de grèves ou de mouvements des mineurs. Donc il y a une analogie qui est relativement s'imposait enfin, assez aisément, mais évidemment avec le temps, avec la reprise en mai 68, on a encore revu le slogan renaître lors des mouvements des Gilets jaunes, il a perdu de son sens. Et vous voyez comment la qualité de l'analogie, la qualité d'une comparaison finalement peut évoluer au cours du temps, peut se démotiver au sens saussurien du terme, et du coup, effectivement, ne plus être admissible au même degré que maintenant. Alors, tout ceci, vous l'avez dans un excellent, dans une émission de France Culture dont je vous donne ici les références, 19 avril 2018, un article de Chloé Leprince, une excellente journaliste. Chaque fois qu'elle écrit, qu'elle fait le point sur un sujet, c'est toujours extrêmement précis et documenté. C'est elle notamment qui nous a rappelé que la fameuse phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, n'est-ce pas, on dit toujours, mais il a ajouté un membre de phrase ensuite, mais la France doit y prendre sa part. Eh bien, elle a démontré que Michel Rocard n'a ajouté ce second membre de phrase, ce correctif, que 6 ans après. et qu'en réalité, donc, il s'est répandu dans les médias pendant 3-4 jours avec une des variantes de la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'était vraiment un arrêt à l'immigration. C'est à ce moment-là que Michel Rocard décide que les demandeurs d'asile ne pourront pas avoir accès au marché du travail, hein, ce qui est quand même une décision très importante. Aujourd'hui, ils peuvent y accéder sous certaines conditions, au bout de 3 mois ou de 6 mois. Enfin, ça reste encore assez compliqué. Il faut avoir des embauches, des engagements de la part d'entrepreneurs, etc. Enfin, c'est, voilà. Donc Michel Rocard avait vraiment opéré un tournant important dans la politique migratoire et Chloé Leprince a parfaitement documenté le fait que le second membre de phrase a été rajouté. Alors, il se trouve que dans le grand dictionnaire de l'argumentation de Christian Plantin, la phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, est donnée un exemple, et Plantin dit ben, il y a un exemple d'argument rhétorique fallacieux qui consiste à tronquer une phrase et à ne pas la présenter en entier. Et là, il commet l'erreur de croire que la phrase était complète dès le départ. Non, Michel Rocard n'avait prononcé que la première phrase, hein, qui avait une forme d'adage, de proverbe, et qui du coup avait une force, une puissance argumentative forte. Et donc Christian Plantin, dans son dictionnaire, qui est par ailleurs extraordinairement documenté, là, sur ce point, fait une erreur, et peut-être qu'on pourra la lui signaler. Et, voilà. Je me souviens, par exemple, que lors de la loi des délibérations de l'Assemblée nationale sur la loi Collomb, en 2018, Philippe Collomb, donc... c'est Philippe, je ne sais plus... Pardon ? Gérard Collomb, voilà. Gérard Collomb cite la phrase de Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et à ce moment-là, tous les députés socialistes se lèvent, mais la France doit y prendre sa part. Et ils ont effectivement utilisé le repentir, comme on dit en peinture, hein, le repentir que Michel Rocard, conscient de l'effet désastreux qu'avait produit sa petite phrase, avait tenu à lui apporter, mais bon, mieux vaut tard que jamais, si on veut encore utiliser un proverbe pour conclure cette affaire. Donc c'est Chloé Leprince, dans un article de Libération, que vous trouverez assez aisément, qui avait notamment documenté de façon extrêmement précise toutes les variantes de la phrase de Michel Rocard. Alors, dans... Le monde anglo-saxon, effectivement, comme nous l'a bien signalé Marianne Doury lundi dernier dans son séminaire, l'approche dominante, c'est vraiment une approche normative, consistant notamment à dénoncer les erreurs de raisonnement, les fallacies, l'idée des... Alors, parfois en français, on dit les fallaces, parce qu'il y a eu une période de notre histoire où le mot existait en français, mais enfin, c'est pas très heureux. Des paralogismes ou des sophismes, ce sont les traductions les meilleures peut-être qu'on peut trouver. Et l'idée, c'est que ce sont des arguments qui interpellent, qui ont une allure de vérité, qui ont l'apparence d'être un raisonnement efficace, mais qui en réalité reposent sur un vice de raisonnement. Alors, déjà, Aristote avait dressé un catalogue des sophismes, hein, c'est une vieille histoire, et dans plusieurs écrits, pas seulement dans la rhétorique, mais aussi justement dans les sophistiques, hein, c'est un ouvrage d'Aristote, et avait distingué des sophismes logiques, par exemple des déductions qui étaient partielles ou erronées, etc., et puis des sophismes plus rhétoriques. Et cette tradition va être reprise, il y a, alors je vais essayer de vous en citer quelques... Dans la logique de Port-Royal, hein, ce qu'on appelle la logique de Port-Royal, c'est-à-dire Arnaud et Nicole, la logique ou l'art de penser, un grand texte de 1662, dans la logique de Port-Royal, alors ça c'est Plantin dans son fameux dictionnaire dont je viens de relever une erreur, mais qui par ailleurs est un ouvrage absolument extraordinaire. Plantin restitue, résume ce que la logique de Port-Royal avait déjà dit sur le sujet. Le chapitre 19 de la logique est consacré aux diverses manières de mal raisonner qu'on appelle sophismes. Alors, il y a d'abord les sophismes aristotéliciens, par exemple, prouver autre chose que ce qui est en question, supposer pour vrai ce qui est en question, ça c'est ce qu'on appelle la pétition de principe. ou en anglais « begging the question », en fait, à un certain moment, de façon subreptice, on se donne pour acquis quelque chose qu'il faut encore démontrer. La démonstration de l'existence de Dieu présuppose souvent l'existence de Dieu pour pouvoir la démontrer. En philosophie, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il y a les sophismes de la fausse cause. Là, je pense que la façon dont les passeurs ont été identifiés comme étant l'unique cause des noyades, de la trentaine de noyades qu'on a connues dans la Manche il y a quelques semaines, est une imputation de fausse cause. Il y a le dénombrement imparfait. Il y a juger d'une chose par ce qui ne lui convient que par accident. Donc, fustiger quelque chose par un élément qui, en réalité, ne lui appartient que de façon accidentelle et qui ne touche pas au fond de la question. Passer du sens divisé au sens composé ou du sens composé au sens divisé. Ça, c'est toujours une citation de la logique de Port-Royal, qui donc consiste, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, les arguments de dissociation, les arguments de liaison, tels que Perelman les avait mis en évidence. Et donc, on va, par exemple, parler des migrants en général, alors qu'en fait, l'argument porte sur un cas particulier de migration, qui évidemment ne peut pas s'appliquer à tous les cas, parce qu'en réalité, c'est très hétérogène. Donc, en fait, c'est raisonné comme si l'hétérogène était homogène ou réciproquement. Passer de ce qui est vrai à quelque égard à ce qui est vrai simplement. Donc, confondre le vraisemblable et le vrai, confondre les vérités partielles avec des vérités complètes, etc. Abuser de l'ambiguïté des mots, ce qui peut se faire en diverses manières. Tirer une conclusion générale d'une induction défectueuse. Donc, vous voyez, il y a toute une série comme ça d'identifications, mais là où la logique de Port-Royal est tout à fait intéressante, parce que c'est quelque chose qui est très... qu'on retrouve beaucoup maintenant de plus en plus dans le débat public, c'est un peu ce que fait Gérald Bronner, par exemple, il est maintenant à la tête d'une commission qui est censée débusquer les paralogismes ou les sophismes qui sont à l'origine des fake news dans les réseaux sociaux. C'est la mission qui a été confiée à ce philosophe qui, sans expérimentation, sans démonstration précise, mais enfin en citant toute une littérature assez importante, dénonce au fond des biais. Alors, la logique de Port-Royal dit qu'un biais, ce sont des sophismes d'intérêt, d'amour-propre et de passion. Il y a une classification générale, et à l'intérieur de ces sophismes d'amour-propre, d'intérêt et de passion, il fustige d'abord le fait de prendre notre intérêt pour motif de croire une chose. Donc, les croyances d'un individu ne sont pas déterminées par le vrai en soi, mais par sa position sociale. J'appartiens à une nation, à une profession, à un institut, à un pays, à un ordre religieux notamment. Ce sont les exemples de la logique de Port-Royal. Et du coup, évidemment, j'approuve tout ce qui est conforme à mon intérêt, à l'intérêt que j'ai d'appartenir par le fait que j'appartiens à ce groupe. J'y trouve mon intérêt et donc, du coup, j'adhère. Il y a les illusions du cœur. Je l'aime, donc c'est le plus habile homme du monde. Je le hais, donc c'est un homme de néant. Et c'est pourquoi on peut appeler ces sortes d'égarements, des sophismes, des illusions du cœur. Et là, il y a toute une nomenclature qui a été donnée, qui est les fallacies d'amour et de haine, ad amicitiam. C'est mon ami, donc je le soutiens. Bon, on a un exemple extraordinaire. C'est Robert Badinter, c'est la colère de Robert Badinter, défendant Mitterrand, n'est-ce pas, lors de, vous savez, devant une cérémonie, je pense que c'était la commémoration de la rafle du Veldiv, et ça venait peu de temps après la révélation que Mitterrand avait fréquenté Bousquet, donc grand persécuteur des Juifs. Et donc, du coup, une partie importante de la communauté juive ne souhaitait pas que le gouvernement soit représenté, que François Mitterrand soit présent à cette cérémonie. Badinter vient, il y a des sifflets, il y a des... Et là, il pousse une colère en disant « j'ai honte », etc., etc. Et... En fait, tout à coup un trou, l'homme qui a dressé le catalogue des... le président des enfants... pardon ? Voilà, Klarsfeld. Klarsfeld a dit, appelé à commenter cet épisode étonnant qui est régulièrement représenté, visible en ligne, a dit, il a simplement défendu son ami. C'était la réponse de Klarsfeld à Badinter. Et ça, c'est un avis fameux, plutôt ami de la vérité que de Platon, c'est un mot qu'on prête à Aristote. Est-ce que, parce que je suis ami de Platon, je vais défendre Platon, ou est-ce que je vais défendre la vérité? Il vaut mieux défendre la vérité que de défendre son ami. C'est pas évident, parce qu'on a aussi une phrase de Camus qui, il vaut mieux défendre sa mère que, etc. Mais je pense que l'exemple le plus extraordinaire, c'est la réponse de Klarsfeld à Badinter. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'argument ad amicitiam, l'argument au nom de l'amitié. L'adhésion au nom de l'amitié, ou ad amorem, au nom de l'amour, ad odium, etc. Et je me souviens qu'un jour, j'étais au comité de rédaction de la Revue française de sociologie, et puis on reçoit un projet de compte-rendu de livre extrêmement élogieux. Monsieur X faisait l'éloge du livre de Madame Y, et puis le secrétaire du comité dit « Attendez, laissez-moi vérifier une chose. » Il part 10 minutes et il revient, il dit « Ils sont mari et femme. » Et donc, c'était monsieur qui faisait l'éloge du livre de madame, ce qui est une preuve d'amour extraordinaire. Mais c'est tout le problème de la recommandation. Et il faut avoir la bonne distance pour pouvoir recommander, pouvoir être critique, etc. Si vous êtes trop près, vous n'êtes pas crédible. Et si vous êtes trop éloigné, vous n'êtes pas compétent. Donc, il faut avoir la bonne distance pour que ça se fasse. C'est un argument très très important dans l'œuvre de Kafka, puisque Kafka imagine dans la Métamorphose et dans plusieurs de ses écrits que il a un rêve, c'est d'être un grand écrivain de la langue allemande comme Goethe et d'être publié non pas à Prague, qui est une petite ville périphérique, mais à Leipzig, qui est le siège de la grande édition allemande. Mais qui va le soutenir, qui va l'apprécier, etc. Alors il y a toute une gradation des êtres qui sont capables d'apprécier son œuvre. Il y a la femme de chambre qu'on peut épater en montrant qu'on n'a pas défait son lit toute la nuit parce qu'on a écrit. Ça, c'est le degré un peu minimal de l'admiration qu'on peut obtenir. C'est un épisode. Il y a la sœur. Votre sœur est vraiment très attachée à vos écrits, elle vous aime beaucoup. C'est votre sœur, elle est quand même très proche, et puis est-ce qu'elle peut faire autrement? Enfin, voilà, il y a tout le problème du public captif. Et puis, il y a l'ami, Max Brod, voilà, il aime beaucoup votre œuvre, il va d'ailleurs la sauver, c'est lui qui va la publier, etc. Mais c'est un ami, donc avec un parcours proche, lui aussi était à Prague, etc. Et puis, il y a d'autres épreuves, il y a la lecture publique, c'était une chose qui était très courante, qui existe encore un peu en Allemagne, quasiment disparue en France, que Rousseau avait pratiqué. Avant de publier une œuvre, on la lit en public, on la lit en entier. Rousseau a lu la totalité des confessions en plusieurs séances devant un public d'aristocrates et de connaisseurs. Mais Kafka aussi a fait ça, et il décrit parfois avec une cruauté terrible vis-à-vis de soi-même le fait que sa lecture a fait un flop, complètement. Mais là, on est déjà dans un public un peu différent, étranger, c'est plus les proches, etc. Et puis, à la longue, évidemment, il va y avoir l'audience universelle, le public universel, etc. Donc, il y a tout un enchaînement, et régulièrement, Kafka remonte ou descend le long de l'échelle des publics possibles. Eh bien, il y a là un problème extrêmement intéressant, c'est ce rapport entre l'amitié, la proximité, la distance et toute la recommandation que vous avez encore aujourd'hui. On est invité très régulièrement à écrire des lettres de recommandation pour des chercheurs et souvent on est sollicité à recommander des gens qu'on connaît à peine. Et moi, je dis toujours, je suis désolé, moi, je ne peux écrire des lettres de recommandation que pour des gens que je connais, mais avec qui, en même temps, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors là, ça rétrécit pas mal la bande spectrale sur laquelle on peut opérer. Voilà, donc, dans l'argumentation, c'est pareil. Une argumentation est d'autant plus convaincante que la caution n'est pas trop liée à la personne, mais en même temps n'est pas trop distante, sans quoi il y a évidemment le soupçon d'incompétence. La logique de Port-Royal continue, les personnes qui veulent tout emporter par autorité. Cette langue est vraiment très belle, les personnes qui veulent tout emporter par autorité, donc c'est l'argument d'autorité. Elles décident tout par un principe fort général et fort commode, qui est qu'ils ont raison, qu'ils connaissent la vérité. Donc c'est leur propre autorité. Hein. D'où il n'aurait pas difficile de conclure que ceux qui ne sont pas de leurs sentiments se trompent. En effet, la conclusion est nécessaire. Donc voilà, c'est monsieur je sais tout ou madame je sais tout, j'en ai connu, hein, dans mon existence, ça existe. Et qui du coup ont un mépris profond et radical pour tout ce qui n'est pas leur vérité. Voilà. Et évidemment, dans le domaine sacré, explique la logique de Port-Royal, là, on trouve ce document, cet argument d'autorité, évidemment, porté à son degré d'incandescence. Il y a l'argument de l'habile homme. Selon le syllogisme de l'habile homme, si cela était, je ne serais pas un habile homme. Or, je suis un habile homme, donc cela n'est pas. Donc, c'est en fait un développement du précédent sophisme. Et là, à l'époque, il y avait cette grande révélation qui était la circulation du sang, révélée par Harvey. Le sang circule à partir du cœur, passe par les poumons, etc. Quoi ? Si le sang, disait-il, avait une révolution circulaire dans les corps, j'aurais ignoré des choses importantes dans l'anatomie ? Il faut donc que cela ne soit pas. C'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, hein, des chercheurs anciens qui s'aperçoivent que des jeunes découvrent des choses qu'eux-mêmes n'avaient jamais vues, et c'est vraiment très cruel, donc cela ne peut pas être. Et est-ce que je vous ai cité l'exemple de Descartes discutant avec Pascal ? Il y a une rencontre unique entre Descartes et Pascal. Ils se sont rencontrés une seule fois, et c'est le père Mersenne, qui était l'homme qui mettait en réseau tous les savants de l'Europe à l'époque, le prédécesseur de la Royal Academy of Science, qui organise la rencontre. Et Pascal est encore tout jeune, Descartes est plutôt en fin de carrière, et Pascal est un porteur de la théorie du vide. Pour Pascal, le vide existe. Il a lu la littérature, l'expérience des sphères de Magdebourg, il connaît tout ça. Or, Pascal, dans sa théorie, a absolument théorisé le fait que le vide était impossible. Et voilà que ce jeune homme fait une petite expérience devant lui qui démontre l'existence du vide. Donc, la rencontre s'est très mal passée. On ne sait pas comment ça s'est passé sur le coup. Mais Descartes écrit, après coup, une lettre au père Mersenne en disant « Ce jeune homme... » Là aussi, il y a toute la distance temporelle. Les vieux contrôlent le temps des jeunes. Ça, c'est très important dans le monde scientifique. Ce jeune homme a le vide dans la tête. Bon. Donc, le passage des générations est parfois la plus forte argumentation qu'on puisse trouver contre les théories dominantes. Voilà. Donc, et là, la logique de Port-Royal dénonce... l'orgueil, la fallacie d'orgueil, ce que je viens de vous raconter, c'est pas possible, la circulation du sang, je l'aurais donc jamais comprise, cela ne peut pas être. Et ils appellent ça l'argument ad superbiam, la fallacie d'orgueil. Voilà, il y a comme ça toute une série. Ils opposent, et ça c'est très intéressant, ça parle beaucoup pour les chercheurs, il y a les contredisants et les complaisants. Les contredisants prennent pour vrai le contraire de ce qu'on leur dit. Et les complaisants semblent prendre pour vrai tout ce qu'on leur dit. Et donc, comment cette accoutumance... Alors, le premier à voir... un des premiers auteurs à avoir développé ça, c'est John Locke, le grand philosophe de la liberté du sujet, qui a été un des premiers à présenter comme ça une liste d'arguments. On en trouve également chez Bacon dans le Nouvel Organum 1620. Bacon est un chancelier d'Angleterre, mais qui en même temps va défendre l'idée que les sciences peuvent être organisées par l'État, qu'il faut soutenir les scientifiques, les entretenir, que l'État doit les mécéner, etc. Et il y a des choses tout à fait étonnantes chez Bacon. Je rappelle que Bacon a été très lu par Émile Durkheim, par exemple, qui s'en inspire assez souvent. Il y a d'abord, dit Bacon, comme biais les idoles de la tribu. C'est une expression fameuse dans la langue anglaise, elle vient de Bacon. Ce sont les déformations que l'esprit humain impose à la réalité. L'esprit, c'est l'idée de Bacon, est un miroir déformant. Et donc, ce sont des, voilà, il y a des biais qui sont liés au fait qu'on appartient à une tribu, à un groupe, une société, etc. Il est un des premiers à faire une espèce de sociologie, encore sommaire, mais enfin, des biais de perception. Voilà. Il y a les idoles de la caverne. Ce sont des préjugés ou des fausses évidences qui sont le produit de l'éducation et de l'histoire. Donc, c'est un peu une variante du précédent. Il y a les idoles de la place publique, du marketplace, du marché. Là, c'est plutôt l'idée qu'il y a une espèce de marché de la controverse qui se nourrit d'ambiguïté, qui engendre des mondes imaginaires, enfin voilà, qui a sa propre logique. Et puis il y a les idoles du théâtre qui se réfère au fait qu'on est impressionné par la mise en scène de mondes imaginaires, par la mise en scène d'une certaine argumentation. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose qui aura une grande influence en Angleterre. En Angleterre, on a l'écrit de Jeremy Bentham, The Book of Fallacies, le livre des fallaces, le livre des erreurs de raisonnement. C'est un livre ce sont des notes que Bentham a prises, notamment à propos sur les débats parlementaires. Il ne le publiera jamais, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans ses écrits posthumes et qui va être édité en livre séparé. Et puis Schopenhauer, le philosophe donc, du pessimisme, comme le caractérise souvent, l'art d'avoir toujours raison, là aussi, il note pour lui-même, pendant au fil des ans, toute une série de procédés. Au fond, c'est toujours l'idée, pour lutter contre les argumentations d'autrui, il faut identifier les procédés et dénoncer finalement les procédés. Et Schopenhauer finalement ne publiera son livre en 1864, et il inscrit ceci dans le cadre d'une dialectique héristique. L'héristique, c'est donc la guerre sans scrupules, c'est la guerre par tous les moyens, et son idée, elle est assez proche de celle de Marc Angenot, c'est qu'on veut toujours avoir raison. Il y a une logopathie, il y a une passion d'avoir raison, passion d'avoir toujours raison, et finalement on fait tout pour ne pas céder aux arguments d'autrui, y compris en employant les moyens les plus déloyaux. Donc c'est une vision extrêmement pessimiste de l'argumentation, qui évidemment est elle alors totalement en désaccord avec toute une littérature normative qui existe dans le monde anglo-saxon, mais aussi aux Pays-Bas, consistant à définir les 10 commandements ou les 15 commandements de ce que devrait être une bonne argumentation. Alors, par exemple, parmi les commandements, il y a il faut répliquer un argument que l'autre a vraiment énoncé. On ne peut pas répondre à quelque chose qu'il n'a jamais dit. J'ai fait l'expérience de ça il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, un peu à mes dépens. J'ai été invité dans un colloque à Toulouse sur la laïcité, et puis un grand prêtre de la laïcité s'est levé dans la salle, et je suis scandalisé, vous avez expliqué que la laïcité discrimine. Alors, vous êtes là abasourdi par une attaque telle, parce que j'ai évidemment jamais rien écrit de tel. J'ai expliqué qu'effectivement la République était souvent aveugle sur l'ampleur des discriminations. Enfin, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. En gros, les chances d'obtenir un entretien d'embauche, un crédit, un logement, etc., sont divisées par deux, voire par trois, quand on a le malheur d'avoir un signe qui rend visible une appartenance au monde, à l'immigration, un lien avec l'immigration arabo-musulmane ou subsaharienne. Ce sont des choses qui ont été testées, vérifiées, mesurées X fois, etc., mais qui sont largement méconnues. Donc c'est ça que j'avais rappelé dans mon intervention. Et on m'a dit, on avait parlé de laïcité, mais si vous identifiez la laïcité à la République, et si vous êtes propriétaire de la laïcité, là, évidemment, toute critique sur l'existence des discriminations, sur le fait que les dispositifs pris à l'encontre des discriminations sont encore très, très faibles, eh bien, c'est une attaque qui est jugée insupportable. Et donc, voilà. C'est très difficile de répondre à quelqu'un qui vous lance à votre égard une accusation qui ne correspond pas du tout à votre argumentation. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Ben, non, je n'ai jamais rien dit de tel, je ne me reconnais pas dans ce que vous dites. Enfin, c'est forcément assez faible par rapport à la force d'une accusation qui ensuite peut circuler, évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est une expérience que j'ai eue il y a un mois à peu près, et qui est assez désagréable, parce qu'effectivement, on aurait envie de dire, mais écoutez, il y a des règles dans la discussion, il faut que l'argumentation soit to the point, qu'on réponde vraiment à ce que vous avez dit. Mais ça n'est pas toujours le cas, loin de là, et vous savez qu'on a évoqué tout à l'heure l'argument de diversion, hein, l'argument du hareng rouge, comme disent bizarrement les Anglais, hein, cette chose qu'on lâche comme ça dans la discussion, parce qu'on est en difficulté lors d'un débat, et puis on change de sujet en lançant une énormité, et du coup, l'autre va devoir y répondre, et on voit ça dans les débats publics assez souvent. Ça s'apprend même, enfin, il y a des cours qu'on donne à des hommes ou à des femmes politiques pour leur apprendre à changer de sujet quand ils sont en difficulté. Hein. C'est quelque chose de tout à fait courant. Voilà, alors oui, l'argument ad hominem. Il y a des confusions sur la compréhension qu'on peut avoir de l'argument ad hominem ou ad personam. Et en fait, il y a plusieurs interprétations possibles de l'argument ad hominem. Une interprétation ancienne, c'était « je reprends un de vos arguments et je le retourne contre vous ». Et je montre qu'en fait, cet argument que vous avez commencé à établir, finalement, ne vaut pas, se retourne contre vous, ou bien aboutit au résultat inverse de celui que vous souhaitez. Donc l'argument de l'effet pervers est en fait, comme j'avais eu l'occasion de le dire, et comme Hirschman le disait, est un argument ad hominem, en ce sens-là. Il y a aussi une autre interprétation qui consiste à dire « je sais sur vous que vous pratiquez ceci, cela, que vous avez telle et telle pratique, etc. Vous êtes un grand défenseur de l'école laïque, mais vous envoyez vos enfants à l'école catholique privée. Ça, c'est un exemple. Donc, on met en contradiction la personne. Vous ne faites pas ce que vous dites qu'il faut faire. Et ça, c'est un argument ad hominem d'une autre qualité qui consiste à utiliser une connaissance parallèle qu'on a sur la personne. Donc, évidemment, là, c'est un argument de type éthos et plus logos. Enfin, les deux sont réunis. Vous êtes en contradiction dans votre pratique avec ce que vous faites. Vous êtes, ça a été évoqué, vous êtes un grand écologiste devant l'Éternel, mais vous êtes venu à ce débat en hélicoptère, en voiture, au lieu de le faire. Voilà. Donc Greta Thunberg, évidemment, a illustré ça en utilisant un bateau à voile pour se rendre à New York, mais enfin, elle est quand même revenue en avion. Et effectivement, moi, quand je suis invité à l'étranger, je ne peux pas me permettre d'attendre le prochain bateau à voile pour rentrer. Donc là, évidemment, l'argument de la contradiction est assez facile. Est-ce que les écologistes appliquent tous dans leur mode de vie, effectivement, les règles dont ils se prévalent ou qu'ils voudraient généralisé, c'est un argument très souvent utilisé contre les écologistes. Mais en matière de migration, vous avez la même chose. Marine Le Pen l'a souvent utilisé. C'est, puisque vous voulez accueillir les gens, accueillez donc des migrants chez vous. Hein. Et lors du débat, là encore, de la loi Gérard Collomb, on a eu ces échanges assez... assez sommaire, mais enfin, Marine Le Pen disant, enfin, c'est fou, tous ces migrants qui arrivent, où est-ce qu'on va les mettre, c'est pas possible, etc. Où va-t-on les mettre? Et les députés, la République insoumise, je crois, la France insoumise, rétorquant, à Montretout. Et Montretout, c'est le château où vit Madame Le Pen, où on vivait en tout cas à l'époque, et qui est donc... que Jean-Marie Le Pen avait hérité d'un industriel qui lui avait légué ce bâtiment, cette maison de maître, je crois. Donc voilà, alors ça c'est, c'est l'argument du tout quoque, hein, qui lui aussi a plusieurs sens et qui consiste à dire mais que ne le faites-vous vous-même, hein, qu'en est-il de vos propres pratiques? Alors l'argument tout quoque a plusieurs illustrations. On en a une l'autre jour, c'est doigt d'honneur contre doigt d'honneur. Hein, c'est un exemple d'argument tout quoque. Vous en êtes un autre. Hein. C'est voilà, c'est ce genre de choses-là. On en a eu un exemple aussi, quand même, le Monde a pris la peine de le relever. Le 4 juin 2021, c'était le débat entre Renaud Muselier et Thierry Mariani, qui était candidat au régional de PACA, de la région PACA, en juin 2021. Vous savez que c'est Muselier donc qui l'a emporté. Et le Monde écrit, je cite, « Le premier débat entre Thierry Mariani et Renaud Muselier a eu lieu et il n'était pas prévu. Jeudi 3 juin, sur les quais de la gare TGV d'Aix-en-Provence, le candidat du Rassemblement national et le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutenu par les Républicains et la majorité présidentielle, sont tombés nez à nez sur un plateau en sortant du même train. L'un comme l'autre revenait d'une interview sur un plateau parisien. Tu dis beaucoup de conneries, à attaquer Renaud Muselier. Toi aussi, à rétorquer Thierry Mariani. » Voilà, ça c'est le degré premier, peut-être le degré zéro ayant été atteint par Zemmour. Là, on peut dire que c'est le degré premier de l'argument tout quoque. Hein. Tu en es un autre, vous en êtes un autre. Hein, voilà. Et ça, c'est évidemment redoutable. Et donc, on a ainsi, comme ça, plusieurs illustrations récentes d'un très, très ancien argument. Évidemment, tout quoque fait référence à la phrase de César découvrant que Brutus fait partie des assassins, mais le contexte est en fait assez différent. Alors, j'ai noté... Donc, un des problèmes qu'on a avec les paralogismes, les fallacies, etc., qui sont dénoncés comme contraires aux règles du bon raisonnement, c'est que très souvent, en fait, ces paralogismes sont des arguments qui font appel aux émotions. Alors, il y en a un certain nombre qu'on peut citer. J'avais notamment évoqué le fait que Douglas Walton, dont Marianne Dury m'a appris l'autre jour qu'il était décédé, je ne savais pas, Douglas Walton avait écrit un grand livre en 92 sur la place des émotions dans l'argument, et il est un de ceux qui a réhabilité la place des émotions dans les arguments. Les arguments d'indignation, les arguments ad hominem, ad populum, etc., sont souvent l'argument à la pitié, l'argument de la compassion. Ce sont souvent des arguments qui s'appuient sur des valeurs morales, qui ont une charge émotive assez importante. Et en particulier, alors, les paralogismes les plus critiqués, ceux qui sont les plus souvent dénoncés, c'est l'argument des conséquences négatives, c'est l'argument de la menace aussi, ad baculum, hein. Si vous ne faites pas ceci, eh bien, les conséquences seront très graves et du coup, ça se passera mal. Et notamment, il y a eu un article très intéressant de Marianne de... de Ruth Amossi et de Roselyne Coren sur la question de savoir est-ce que l'argument de la peur est propre à la droite ou est utilisé aussi à la gauche. Elle analyse un discours de Mélenchon qui, en fait, tout en dénonçant l'argument de la peur utilisé par ses adversaires, utilise lui-même l'argument de la peur. C'est assez intéressant de voir qu'en réalité, dans le débat politique, prophétiser les conséquences négatives de ce que ferait l'adversaire, c'est un argument par la peur, mais qui finalement peut être tout à fait légitime si effectivement on a une capacité à développer les conséquences d'une argumentation mesurant les coûts, mesurant les incidents, mesurant l'incidence sur une certaine catégorie de la population, etc. Donc tout ceci est tout à fait possible. Donc je ne retrouve pas la référence exacte à cet article très intéressant, mais enfin, je pense que si vous googlez Amossi, Koren, K-O-R-E-N et Mélenchon, vous trouverez cet article sur le fait que l'argument de la peur, qui est évidemment constamment utilisé dans l'immigration, hein, à propos de l'immigration, nous serons envahis, nous perdrons notre identité, est un argument qui n'est pas en fait exclusif, dont la gauche, dont la droite n'a pas le monopole. Mais enfin, il est quand même surtout pratiqué par la droite et l'ultra-droite, ça me semble assez évident. Il y a aussi des... je voudrais peut-être évoquer maintenant avec vous le fait que nous avons, au fond, des critiques, une succession de critiques qui peuvent aller très loin, qui peuvent toutes consister à dire « mais vous êtes en train de défaire la nation, vous êtes en train de miner notre identité nationale, vous êtes en train de miner la République ». Et je crois que sur ces questions-là, il faut avoir une vue d'ensemble historique assez suffisamment profonde pour être en mesure de ne pas se laisser impressionner par ces arguments qui sont aujourd'hui prédominants. Si vous prenez au fond l'histoire de France, l'histoire de la République française, on peut la commencer à la Révolution française, vous avez une critique radicale, la critique des privilèges, qui est une critique civile, en quelque sorte. Il n'y a pas différentes catégories de citoyens, il n'y en a qu'une seule, et on ne peut pas avoir des privilèges et se voir gratifier des biens ou se voir refuser des biens au nom de l'appartenance à un ordre ou à un État qui distinguerait des catégories de citoyens. Donc ça, c'est la grande avancée de la Révolution française, c'est la critique civile. On va voir un peu plus tard, ce n'est pas la même chose, la critique civique. La critique civique, c'est notamment toute la querelle sur le droit de vote. Et là, Marc Angenot a écrit des choses extrêmement importantes. C'est qui a le droit de vote, qui aura le droit de vote. Et vous savez que cette histoire, elle est très longue, puisque le droit de vote a été accordé aux femmes en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les Anglaises l'ont obtenu à la fin de la Première Guerre mondiale. On a été en retard d'une guerre. Et puis, il y a aussi la question de est-ce que les mineurs doivent avoir le droit de vote ? Quelle est la limite entre majorité et minorité pour avoir le droit de vote ? Moi, je n'avais pas pu voter en 73-74, donc à quelques semaines près, je n'avais pas encore le droit de vote qui était fixé à 21 ans à l'époque. Donc, la critique civique, elle a été considérable. C'est-à-dire, il a fallu des débats extrêmement vifs pour qu'il soit admis qu'on ait une égalité d'accès au vote qui, en fait, était refusée. Au moment de la Révolution, le droit de vote était refusé aux domestiques, il était refusé aux faillis, les gens qui avaient fait faillite, il était refusé, évidemment, aux femmes, il était refusé à toutes aux personnes qui n'étaient pas libres dans les colonies, etc., etc. Donc, et l'idée était que pour avoir accès au droit de vote, il était refusé aussi à ceux qui étaient sans domicile fixe et qui n'avaient pas un impôt local, une durée de résidence de plusieurs mois ou plusieurs années. Enfin, ça dépendait des dispositions prises. Donc, une partie considérable de ce qu'on appelle aujourd'hui le corps électoral était écartée parce qu'il y avait l'idée que le droit de vote était réservé aux gens qui avaient des capacités, qui avaient un ancrage territorial, qui avaient une stabilité, et que les autres étaient trop dépendants, en situation de domination. Et donc, pour mériter l'égalité, il fallait déjà avoir accès à un certain niveau d'égalité. Et le modèle qui était cité, évidemment, c'était la Grèce antique ou la Rome antique, où il y avait au moins la moitié de la population qui ne faisait pas partie des citoyens libres, puisqu'ils étaient esclaves, métèques, étrangers, etc. Donc, la critique du droit de vote, elle a abouti à des débats d'une force, d'une violence considérable, puisqu'il y a eu, y compris à gauche, à l'extrême gauche, des attaques contre le suffrage universel, parce que le suffrage universel, l'expérience des plébiscites l'avait montré, était extrêmement négative. Et donc il y a eu l'idée quand même défendue par beaucoup que le suffrage universel était antidémocratique, ce qui aujourd'hui nous paraît étrange, puisque quand on veut plus de démocratie, on fait appel à l'idée du référendum pour que la démocratie se développe. Mais tout ceci a mis très très longtemps à percer. Ça ne fait pas partie de notre héritage naturel. Ça n'était pas dans le cœur du message de la Révolution française. Ça a été rajouté après coup par une succession de critiques qui ont été extrêmement... Vous savez que Victor Hugo, par exemple, a participé à cette idée, mais l'idée, c'était qu'il fallait qu'il y ait un certain niveau d'éducation pour que les lecteurs puissent réellement voter. Il y avait une corrélation, une connexion, une conditionnalité qui était établie entre le niveau d'éducation et la capacité à voter, et c'était un des arguments de la diffusion de l'éducation que de former des électeurs capables de voter. Ça, c'est une deuxième critique. Après la critique civile et la critique civique, nous avons eu dans notre République la critique sociale. Les révolutionnaires avaient envisagé des droits sociaux dans les premiers débats, mais le débat des 23 et 24 août sur les droits fondamentaux, enfin sur les droits de l'homme, ont dû être refermés rapidement, hâtivement, et la deuxième partie des droits qui avaient été prévus, mais qui finalement ont été jugés quand même secondaires, les droits sociaux, le droit au travail, le droit à la santé, enfin ce genre de choses-là, n'a pas pu être traité par la Constituante. Et du coup, ça va être tout le développement du 19e siècle pour essayer d'intégrer, aujourd'hui nous avons ça dans la Constitution, d'intégrer les droits sociaux. On a même intégré le droit à l'environnement, etc., dans les droits fondamentaux. Là encore, immense débat, et on ne peut pas dire que ce soit un développement intrinsèque de la notion même de la République, mais plutôt des critiques extérieures, des critiques latérales, souvent venues d'ailleurs inspirées par d'autres pays, qui ont fait qu'on a ajouté des droits sociaux. Et par exemple, la Révolution interdit les corporations, interdit les syndicats, etc. Et il faudra, à la fin du Second Empire, pour qu'on rétablisse véritablement des syndicats. Voilà, et c'est quand même une longue durée. Bon. On a d'autres types de critiques qui se succèdent. Il y a la critique féministe, qui est quelque chose de très important, que nous avons connu dans notre génération, mais qui n'allait pas de soi. Là encore, elle a été portée par des pionnières tout à fait extraordinaires, mais il faudra longtemps, et là encore, pour que la République admette que les femmes puissent voter. Et les arguments utilisés, c'était leur degré de dépendance vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des prêtres. Voilà, il y a eu toute une série d'arguments qui, là encore, consistaient à dire pour avoir droit à l'égalité, il faut la mériter. Et on ne peut pas la mériter tant qu'on est dans une situation de dépendance. Et cet argument va être une critique, une contre-critique qui va être très, très efficace, puisqu'elle va retarder tous ces systèmes d'émancipation. Vous avez ensuite une extension qui est assez récente, qui est la critique des discriminations. La critique des discriminations, nous ne l'avons pas encore avalée. Je pense qu'en grande partie, ce mouvement anti-wokiste qui est en train de se développer à une vitesse phénoménale, de circuler entre une série d'hebdomadaires, de ministres, etc., c'est le fait que la critique des discriminations n'est toujours pas intégrée, qu'on les minimise et qu'on considère que la critique des discriminations, le fait de faire référence à des discriminations qui ne remplissent pas les promesses de la République, c'est une atteinte insupportable à la notion même de la République. On pourrait très très bien complètement retourner l'argument et dire au contraire, pour que la République soit vraiment République, il faut qu'elle soit capable de lutter contre les discriminations et de tenir ses promesses d'égalité. Mais d'une façon générale, chacune des critiques, ça c'est très intéressant quand on regarde ça dans la longue durée, et là la lecture de Marc Angenot est tout à fait utile et nécessaire, chaque nouvelle critique a développé des réactions extrêmement vives de la part des tenants de la critique précédente. Vous avez des sociologues qui estiment que c'est essentiellement les inégalités sociales qui dominent l'ensemble du paysage et expliquent les inégalités. Et si on leur explique qu'en plus des inégalités sociales, il y a aussi des inégalités ethno-raciales, qu'il y a des discriminations qui peuvent être même religieuses, etc., que tout ça, ça se mesure, hein, ils vont tout faire pour le minimiser. Ils sont propriétaires de la critique sociale et ils ne peuvent pas admettre qu'une nouvelle critique, amenée souvent par des jeunes qui viennent de l'extérieur, puisse mettre en péril, en quelque sorte, l'espèce de monopole qu'ils avaient sur la critique sociale. Donc, si vous lisez Bourdieu, par exemple, vous ne pouvez pas dériver de Bourdieu une critique des discriminations. Il n'en parle jamais. Ce n'était pas son sujet. Ce n'était pas son sujet à l'époque. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet qui intéresse aussi les sociologues. Et la question, ce n'est pas d'opposer les deux critiques. Le problème, ce n'est pas la concurrence des critiques. C'est comment articuler les critiques, comment les ajouter les unes aux autres, comment faire que la critique civile, la critique civique, la critique sociale, la critique féministe, la critique antidiscriminatoire, que tout ça, ça puisse s'articuler et s'ajuster. Et il n'y a rien de plus désastreux, je pense, hein, que de dénoncer une critique au nom d'une autre. Enfin, voilà. Mais vous avez d'autres critiques qui se développent. Il y a la critique environnementale, qui consiste à dire mais un certain nombre de choses ne sont plus possibles, un certain nombre de modes de comportement ne sont plus possibles parce que l'environnement est en jeu et que ça concerne tout le monde. Bon, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Comment articuler la critique environnementale à la critique des discriminations, à la critique sociale? La critique sociale, elle avait, par exemple, des arguments forts. C'était faire en sorte que l'accès aux biens de ce monde soit égaux. Mais ça évolue. Quand j'étais jeune, par exemple, il y avait des enquêtes sur la consommation qui étaient régulièrement faites par l'INSEE depuis longtemps. Et un des critères de pauvreté, c'était le fait de ne pas manger plus de deux fois de la viande chaque semaine. On avait un critère qui disait manger de la viande, ne pas pouvoir manger de viande pendant une semaine entière, c'est un critère de pauvreté. Aujourd'hui, ce critère s'est complètement retourné et ce sont les classes supérieures qui ont diminué considérablement leur consommation de viande. Bon, c'est tout à fait fascinant de voir comment un indicateur qui était évident, l'ouvrier avait besoin d'une viande roborative et les enfants qui étaient privés de viande, c'était quelque chose de scandaleux. Enfin, c'était voilà. Il y a des critiques comme ça qui évoluent. On ne peut plus. On est obligé de tenir compte de nouvelles critiques. Il y en aura d'autres. Ça finira jamais. Je pense qu'il y a la critique animale qui affleure de temps en temps, qui est représentée par quelques personnages un peu, qu'on juge un peu farfelus, etc. Mais je pense à Peter Singer, l'Australien, spécialiste d'éthique, qui a été longtemps professeur à Princeton, qui a été. C'est vertigineux, la critique spéciste, ou antispéciste. C'est vertigineux. Si vous commencez à vous intéresser au sort des animaux, à essayer de voir comment on peut hiérarchiser les espèces animales qui méritent le respect, qui pourrait peut-être avoir des droits, etc. Où s'arrête la frontière? Est-ce qu'il faut s'arrêter aux primates? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que les animaux familiers doivent être inclus? Est-ce que le bétail, etc., etc., etc. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, mais chaque fois que je lis les auteurs qui promeuvent cette nouvelle forme de critique, hein, au nom du bien de l'animal, je trouve que c'est vertigineux. Et je me dis qu'un jour ou l'autre, il faudra traiter la question sérieusement. Et que ça nous pend au nez, d'une certaine manière. Et voilà, il faudra être capable d'intégrer cette critique sans nous dire que ça va détruire l'humanité parce que la frontière entre l'humanité et l'animalité sera devenue plus compliquée que ça. Voilà, je pense aussi évidemment à la critique du genre, à la critique genrée, etc., qui pose aussi d'énormes problèmes. Voilà. On s'aperçoit maintenant qu'entre les deux sexes, il y a une zone grise, ce n'est pas si simple, il y a des passages. Quand je travaillais à l'INSEE il y a une vingtaine d'années, on avait des erreurs de codage sur le sexe. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui cochaient, il y avait 0,5% d'erreur, je me souviens. Puis à un certain moment est apparue la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des personnes qui changeaient de sexe. Le directeur général de l'INSEE avait reçu, je me souviens, Edmond Malinvaux, un jour, une demande de changement de sexe, quelqu'un qui voulait que le numéro 1 soit changé en numéro 2 ou l'inverse. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore de comité d'éthique, la CNIL était à peine établie, et c'était le directeur général de l'INSEE, dans sa sagesse souveraine, qui prenait la décision de changer ou pas le numéro, le premier numéro du numéro INSEE, le premier chiffre du numéro INSEE. Bon. Aujourd'hui, tout ceci a pris de l'ampleur et on a découvert dans les enquêtes sur les orientations sexuelles que les choses bougeaient de plus en plus. Et j'observe dans les jeunes générations, chez mes neveux, mes nièces, etc., une passion pour cette question du genre qui est assez impressionnante. Enfin, bon. Est-ce qu'on peut écarter tout ça en considérant que ce sont autant des épouvantails qu'il faut dissimuler, je ne pense pas. Et donc, je crois que l'argumentation, enfin la rhétorique, tout ce dont j'ai parlé, doit aussi tenir compte du fait que nous avons tout un enchaînement, une succession de critiques au cours de l'histoire qui ne peuvent pas tourner à la concurrence ou à la destruction mutuelle des critiques. Donc, j'ai un côté un peu... Alors, on peut qualifier ça c'est une démarche inclusive, si vous voulez, c'est une démarche peut-être éclectique, mais je ne vois pas d'autre solution que sinon on s'enferme dans la guerre des critiques, dans la concurrence des critiques, et c'est ce à quoi on assiste. Je pense vraiment que le mouvement anti-wokiste en ce moment, c'est une réaction à l'idée que, il y a des personnes qui sont discriminées, elles protestent, elles ont des arguments et on essaie de les faire taire. Voilà, ça c'est quand même... Alors, j'avais évoqué l'autre jour le cas de Joséphine Baker, la cérémonie Joséphine Baker, et l'une d'entre vous est venue me trouver en disant « Mais vous auriez dû quand même nous dire que c'était un exemple d'assimilation. » Je suis d'accord, c'est effectivement, Joséphine Baker est un très bel exemple d'assimilation, mais je prends quelqu'un qui a une certaine surface médiatique et qui est fustigé très régulièrement. Rokhaya Diallo est elle aussi assimilée. C'est une autre façon d'être assimilée. C'est une porte-parole de minorité qui proteste contre les discriminations, mais elle est aussi républicaine et assimilée que vous et moi. Et il y a plusieurs façons. Je pense que là, il faut rétablir la notion du pluralisme. Quand on dit qu'il y a plusieurs façons de manifester son attachement à la République, il y a plusieurs façons de lutter pour que la République tienne ses promesses, il faut accepter qu'il y a une pluralité de voix. Il y a des personnes qui se sont assimilées par des parcours absolument magnifiques. Je pense à Malika Soarel, qui est parfaitement assimilée, et dont tous les livres ont consisté à dire « soyez assimilés comme moi ». Ce n'est pas la seule voie possible. Il y a plusieurs voies possibles pour entrer dans la maison du Père, si j'ose dire. Donc, le problème, c'est que quand on invoque le pluralisme, on est très vite taxé de relativisme. Et je me réfère à Raymond Aron, pour qui la notion de pluralisme était absolument fondamentale pour éclairer la démocratie. On est en train de l'oublier, et chaque fois qu'on invoque l'idée qu'il pourrait y avoir plusieurs façons de construire la République, plusieurs façons de rétablir l'égalité, plusieurs façons de concevoir son lien avec la République, eh bien, on est très vite taxé de relativisme. Il n'y aurait qu'une seule voie, il n'y aurait qu'une seule façon d'agir. Et ces voies sont de plus en plus officielles, elles sont incarnées par tel ou tel ministre. Je ne reconnais pas personnellement, moi je ne reconnais pas un ministre le droit, la possibilité de détenir la vérité sur ce que doit être la conception de la République. Je pense qu'on a le droit de considérer qu'il y a plusieurs façons de concevoir la laïcité, plusieurs façons de concevoir la République, plusieurs façons de... On a un objectif commun, on est tous laïcs, on est tous républicains, etc. Mais les façons d'y parvenir, les moyens d'y parvenir, ça, on peut en débattre. Et on peut en débattre sans être accusé d'être en dehors de la société, sans être accusé de trahir la nation, de pratiquer la haine de soi, enfin, qui sont des arguments extrêmement violents, qui sont régulièrement utilisés dans le débat public actuel. Voilà, là, je vous donne une espèce de profession de foi un peu inclusive, mais qui porte quand même en profondeur, je dirais, ce que j'essaie de vous raconter à travers cette affaire de rhétorique et d'argumentation Il y a plusieurs façons. On peut toujours, effectivement, et j'en parlerai la semaine prochaine de façon beaucoup plus précise, on peut toujours dire que le chercheur doit s'abstenir de tout jugement de valeur. Mais en réalité, si vous regardez les grandes œuvres sociologiques, elles s'appuient tous sur des principes. Vous regardez l'œuvre de Bourdieu, qui fut professeur ici pendant une douzaine d'années ou une quinzaine d'années. Il y a des principes de justice qui sont à la base de la sociologie de Bourdieu. Et sans ces principes de justice, on ne pourrait pas imaginer que Bourdieu ait même commencé à écrire. Lorsqu'il dénonce les héritiers, lorsqu'il dénonce les inégalités scolaires et la façon dont les inégalités sont en quelque sorte dissimulées, etc., il s'appuie sur des principes de justice. Et une des critiques les plus intéressantes qui a été faite de Bourdieu de ce point de vue-là, c'est la critique faite par Boltanski, Luc Boltanski, qui fut un de ses collaborateurs les plus proches, qui a beaucoup travaillé avec Bourdieu, à qui Bourdieu doit beaucoup. Enfin, la nature des échanges exacts entre Bourdieu et Boltanski n'est pas facile à déterminer. Il y a eu beaucoup d'échanges mutuels. Eh bien, Boltanski, au fond, a dit essentiellement le problème avec Bourdieu, c'est qu'on n'a pas toujours que les principes directeurs de la société de Bourdieu ne sont pas explicités. Au fond, quel est le système, alors c'était le langage de Boltanski, quel est le système des grandeurs qui est promu par Bourdieu? Est-ce que c'est une grandeur civique? Est-ce que c'est une grandeur morale? Est-ce que c'est, etc. Bon, on a ainsi un problème avec des œuvres qui n'explicitent pas suffisamment leurs principes. Alors moi j'essaie, sans du tout me comparer à ces géants de la sociologie, que sont Bourdieu ou Max Weber, je suis beaucoup plus pragmatique, je n'aime pas l'esprit de système. Bourdieu avait quelque chose de tout à fait particulier, c'était son extraordinaire esprit de système. Je me souviens d'avoir assisté à son séminaire en 73-74, on n'était que 5 étudiants de Normale Sup à assister à son séminaire, il n'avait pas encore l'aura extraordinaire qu'il allait avoir plus tard. Et il y avait deux types de cours. Il y en avait un où il invitait des personnes qu'on ne rapproche pas du tout de Bourdieu. Il y avait François Furet, Mona Ouzouf, Christophe Pommian. Enfin, il y avait ses collègues de hautes études. Il y avait Edward Thompson, le grand historien de la classe ouvrière, etc. Ça, c'était une séance sur deux. Et puis l'autre séance, il exposait son système. Et on lui demandait, mais quel rapport entre la notion de champ et la notion d'habitus, entre la notion de capital, la notion de champ, etc. Et il nouait tous les liens entre les... Et on avait l'impression d'un cylindre dans lequel la moto tournait, vous savez, comme dans ces cirques, et consolidait peu à peu le cylindre. Et c'était un formidable esprit de système, comme les grands philosophes sont capables d'élaborer des systèmes. Et qu'il a continué de peaufiner jusqu'à la fin de sa vie, en même temps le nourrissant de quantité d'exemples. C'était ça la force prodigieuse de Bourdieu, c'est qu'il y avait beaucoup, il y avait quand même pas mal d'enquêtes empiriques pour étayer tout ça. C'était, à mon avis, ce qui va rester de Bourdieu. Donc, si on n'a pas l'esprit de système, si on considère que toutes les critiques successives qui se sont déployés dans l'espace public, mais aussi dans le champ des sciences sociales et humaines, qui sont une extension, en quelque sorte, du débat public pour essayer de se rapprocher de la science, eh bien, il faut admettre qu'il y a une pluralité de critiques, que ces critiques peuvent être effectivement de temps en temps contradictoires, se secouer mutuellement, mais qu'elles ne doivent pas se combattre comme je le vois actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie gaspillée en vain chez les chercheurs en sciences sociales, mais qu'il y a aussi beaucoup d'énergie gaspillée en vain dans le débat public, dans le débat politique, sur le fait que ces critiques se combattent au lieu de s'articuler, au lieu de s'ajouter, au lieu de voilà. Après, il y a tout un débat. Est-ce que le développement de ces critiques, c'est un développement inhérent à l'idée même, au principe d'égalité tel qu'il a été fondé par les révolutionnaires, au fond, voire auparavant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est survenu de l'extérieur par des chocs extérieurs? Je pense que, en réalité, la plupart des critiques sont venues de l'extérieur. La critique des discriminations doit beaucoup à un apport anglo-saxon. Je suis désolé d'avoir à dire qu'effectivement, on emprunte de temps en temps des choses au monde anglo-saxon, mais les droits de l'homme et du citoyen doivent beaucoup à la racine, à la source anglo-saxonne aussi. Il y a des circulations d'arguments entre les civilisations. Je pense que nous nous la critique féministe a été beaucoup plus rapidement et plus précocement développée en Angleterre, dans d'autres nations que chez nous. Le mouvement des suffragettes est bien antérieur à celui au mouvement équivalent en France. La question des orientations sexuelles, c'est la même chose. Enfin, donc, mais une des plus grandes secousses qui a donné lieu à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui a donné naissance à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est quelque chose d'extraordinairement solide avec la garantie collective, c'est le fait que c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est l'échec du nazisme. Il a fallu à ce moment-là, on s'est rendu compte que le principe d'égalité, le principe de non-discrimination vivotait à petit feu dans le droit français, dans nos références. Et là, les grandes bases de données lexicographiques sont extrêmement, illustrent très bien ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment des périodes où ces grandes idées, ces principes que nous croyons nous avoir été légués directement, de façon continue, depuis la Révolution française, en réalité, c'était un peu dilué et nous sont revenus de l'extérieur. Et donc, nous avons un héritage, incontestablement, mais cet héritage s'est enrichi par des apports extérieurs. Et en même temps, ces apports extérieurs, la France a beaucoup compté. J'insiste sur le fait que René Cassin joue un rôle essentiel dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que Pierre-Henri Tedjène a joué un rôle décisif dans la conception de la garantie collective qui est le cœur de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait que tout citoyen peut s'adresser à la Cour de Strasbourg s'il a épuisé ses voies de recours, et que si la Cour de Strasbourg dit « oui, vos droits fondamentaux ont été violés », à ce moment-là, le pays adhérent au Conseil de l'Europe doit immédiatement restituer la personne dans ses droits sans attendre qu'il y ait un changement de législation. C'est ça la garantie collective. Eh bien, ça, c'est une conquête évidemment considérable que nous devons donc à des Français. Ensuite, on a mis un temps fou à adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. On y a adhéré, ça je pense vous l'avoir déjà dit, qu'en 1974, et puis le droit de recours n'a été accordé qu'en 1981. Donc nous sommes dans cette idée, je pense qu'il faut articuler tout ce que je viens de vous dire sur la succession des critiques avec la question du souverainisme. Nous avons une espèce de souverainisme intellectuel ou éthique qui consiste à croire que nous avons été les inventeurs et les porteurs universels d'un message universel en termes de droit, mais en réalité, leur application concrète, leur effectivité, comme disent les juristes, a été extrêmement réduite, et c'est de l'extérieur qu'un certain nombre de minorités ou de composantes majeures de la société, les femmes, les esclaves, hein, je n'ai pas cité ça tout à l'heure dans mon énumération, mais enfin ça intervient aussi, les victimes de discrimination, etc., ont été finalement intégrées dans cette affaire. Voilà, je suis un peu moralisant, mais dans le cours suivant, et de façon, je crois, aussi rigoureuse que possible, et à l'aide notamment de Roselyne Coren, qui a beaucoup travaillé sur cette question, nous allons reprendre la question difficile de l'engagement et de la distanciation de la morale versus la politique et de la façon dont on peut appliquer tout ça au débat actuel sur l'immigration. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.